Et le journal vous est présenté par Ezekiel Fernandez. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le Liban frappé par une catastrophe majeure, une double explosion hier dans le port de Beyrouth. Bilan provisoire, vous l'avez dit Chloé, 78 morts, plusieurs milliers de blessés. Les témoins parlent d'explosion atomique équivalent à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. Vous entendrez l'un de ces témoignages en début de journal. Frédéric Mettezo sera également avec nous pour envisager les pistes d'explication de cette tragédie dans un pays plongé dans une crise économique et sociale sans précédent.
Les suites judiciaires de la crise sanitaire, les plaintes pour homicide involontaire se multiplient en France. Elles concernent des soignants victimes de la Covid. Tara Schlegel fera le point sur ces procédures individuelles ou collectives.
Le Japon, pays hermétiquement fermé depuis le début de la pandémie, commence tout juste à rouvrir ses frontières, mais les résidents étrangers s'estiment toujours discriminés. Franck Matvaux a joint des ressortissants français. C'était comme une bombe atomique. Peut-être la phrase qui résume le mieux la catastrophe survenue hier à Beyrouth. Une double explosion dans le port de la capitale libanaise dont le souffle a été ressenti jusqu'à Chypre, à plus de 200 km de là. Le bilan provisoire fait état donc de 78 morts, des milliers de blessés, 4000. Je vous propose tout de suite le témoignage d'une Française. Une Française qui vit dans le quartier chrétien de Beyrouth, à Achrafieh.
Beyrouth, c'est Hiroshima. Ça a dû exploser sur 10 km à la ronde et tous les témoignages confirmeront que les vitres ont explosé, mais alors très loin du point d'impact. En bas dans ma rue, les voitures roulent sur des débris de verre ou de la poussière de toiture. Je suis descendue au port et j'ai vu des jeeps de l'armée libanaise ramasser des gens à l'appel, en vrac, mettre des blessés à l'arrière et les entasser. C'est apocalyptique. J'ai vu des pièces qui ont été bougées, qui pesaient 500 kilos, tu vois, qui ne devraient pas bouger normalement, qui ont été soufflées. Enfin, vraiment, c'est énorme. C'est gros, c'est un 9-11, c'est Hiroshima, ce sont des images comme ça qui viennent à l'esprit. Mon ami est libanais, il a vécu toutes les bombes, il a vécu la guerre, il n'a jamais senti cette puissance-là, et moi non plus.
Un témoignage recueilli pour France Culture par Valérie Crova. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Il est encore trop tôt pour savoir ce qui a provoqué ces déflagrations dantesques. Le monde n'est pas trop fort. L'enquête, en fait, ne fait que commencer.
Oui, enquête pour comprendre l'apocalypse, comme le titre L'Orient le Jour, le grand quotidien libanais francophone. Les responsables devront rendre des comptes, déclare le Premier ministre. Le gouvernement décrète une journée de deuil national. Conseil des ministres exceptionnel pour proclamer l'état d'urgence à Beyrouth, où l'armée va prendre le contrôle pendant deux semaines. Les pelleteuses, les camions, les secouristes sont en action en ce moment à Beyrouth, mais les hôpitaux sont saturés, certains ont été endommagés ou détruits. Selon la Sûreté Générale, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit qui sert à fabriquer des engrais, ont explosé. C'est le même produit, vous savez, qu'à l'usine AZF de Toulouse. Ce produit était stocké là depuis 6 ans, sans aucune précaution particulière. L'enquête devra déterminer comment l'incendie qui a précédé les explosions a débuté. Accident, négligence ou geste criminel. Et si des armes étaient stockées sur place? Parce que la branche militaire du Hezbollah, classée terroriste par l'Union européenne, est régulièrement accusée d'entreposer ses armements dans des secteurs civils, comme le port de Beyrouth. Le port de Beyrouth, principale porte d'entrée des marchandises et des denrées dans le pays. L'acheminement de l'aide humanitaire risque d'être perturbé. Les États-Unis, la France proposent leur aide, tout comme l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, qui se livrent habituellement à une guerre d'influence au Liban, et même Israël, le pays ennemi juré depuis 72 ans, Israël offre son assistance à un Liban dévasté.
Beyrouth présente donc ce matin un visage dévasté, vous venez de le dire, digne d'un lendemain de bombardement en fait. Des images qui rappellent d'ailleurs de sombres pages d'histoire. Il faut bien dire, Frédéric, que cette catastrophe tombe sur un pays déjà en souffrance extrême.
Corruption, clientélisme, système politique communautariste à bout de souffle. Au Liban, la vie publique est régie par l'appartenance à une religion et à un clan. À cela s'ajoute une crise économique sans précédent, les prix flambent, la monnaie perd continuellement de sa valeur, le chômage augmente y compris chez les cadres et dans la classe moyenne, le confinement a accéléré le phénomène. Désormais, on souffre de la faim au Liban, les tonnes de farine stockées dans les silos du port de Beyrouth sont impropres à la consommation à cause de l'explosion. Sans oublier que sur 6 millions d'habitants, environ 1,5 million sont des réfugiés syriens. À la fin de l'an passé, des milliers de Libanais ont manifesté contre la déliquescence du pays. Peu importe son origine, l'explosion d'hier est un symbole de cet écroulement du Liban, comme la catastrophe de Tchernobyl avait symbolisé celui de l'URSS.
Merci beaucoup Frédéric Mettezo. De nombreux pays participent et ont proposé d'ores et déjà, vous l'avez dit, de l'aide au Liban. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un détachement de la sécurité civile, de plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété ce mercredi jour de deuil national. En France, 2700 personnes ont dû être évacuées hier soir à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, à cause d'un violent incendie qui a ravagé 900 hectares en quelques heures à peine. Beaucoup de campeurs parmi les personnes secourues, évacuées par la mer et regroupées dans 8 gymnases des communes voisines. Pas de victimes, fort heureusement, à déplorer dans cette série d'incendies dans le sud-est. La ville de Paris envisage à son tour de rendre obligatoire d'ici 2 ou 3 jours le port du masque dans les lieux ouverts comme les berges de la Seine ou les marchés à ciel ouvert entre autres, comme c'est déjà le cas d'ailleurs à Lille, Biarritz, Toulouse ou encore en Mayenne. Le début de la crise sanitaire en France avait été marqué, tout le monde s'en souvient, par le manque criant de masques de protection. Un manque qu'incrimine la veuve d'un médecin urgentiste dans le Jura. Elle vient de porter plainte contre X pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Son mari, l'urgentiste Éric Loupiac, est mort de la Covid-19. Le 23 avril dernier, il avait 60 ans. Sa veuve dénonce des manquements aux obligations de sécurité qui incombaient à l'hôpital. Une enquête préliminaire va donc être ouverte d'ici la fin de ce mois à Lons-le-Saunier. Il ne s'agit, Tara Schlegel, que d'un cas parmi beaucoup d'autres.
Chaque drame est évidemment individuel, mais le nombre de plaintes ne cesse d'augmenter. Avant celle de Claire Loupiac, il y a eu une autre veuve, l'épouse d'Ali Djemoui, généraliste de 59 ans, qui exerçait dans le quartier du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Il avait reçu 1400 patients, à raison d'une soixantaine par jour, pendant un mois environ, avant de succomber. Sa veuve a donc porté plainte au tribunal de Créteil, notamment pour homicide involontaire. Elle poursuit la Direction Générale de la Santé, l'Agence Régionale de Santé, mais aussi l'Ordre des pharmaciens qui n'avaient pas passé de nouvelles commandes de masques. Plus largement, le 9 juin dernier, face à l'afflux de plaintes, les magistrats du pôle santé en ont reçu plus de 70, le procureur de Paris a ouvert une vaste enquête préliminaire. Il regroupe ainsi 13 procédures menées par diverses associations, mais aussi des plaintes déposées via des formulaires tout prêts qu'on trouve sur Internet. Son enquête devra établir, dit le procureur, d'abord un fonds documentaire qui pourra attester de l'état des connaissances scientifiques concernant l'épidémie, car il va falloir apprécier les responsabilités des décideurs qui sont visés dans ces plaintes au regard de ce que l'on savait du nouveau coronavirus. Enfin, parallèlement à toutes ces démarches, plusieurs ministres sont nommément attaqués. La Cour de justice de la République a reçu 90 plaintes contre Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn. 9 ont été retenues par la commission des requêtes et les premiers plaignants seront entendus en septembre. C'est la première fois qu'en France, tous tribunaux confondus, une crise sanitaire est ainsi jugée à chaud.
Les précisions de Tara Schlegel. Une nouvelle mise en garde du Conseil scientifique qui guide les choix du gouvernement face à la pandémie. L'équilibre est fragile. Nous pouvons basculer à tout moment. Il estime hautement probable, en effet, qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou en hiver. Le nombre de patients en réanimation est reparti à la hausse ces derniers jours. Parmi les pays qui ont instauré des mesures drastiques contre la propagation de la Covid figure le Japon, qui commence aujourd'hui même, en ce mercredi, à entrouvrir ses frontières. Depuis 4 mois, les résidents étrangers ne peuvent ni entrer ni sortir. Il serait près de 90 000 expatriés bloqués hors du Japon, dont de nombreux Français. Les portes commencent donc à se rouvrir, Franck Mathevon, mais au compte-gouttes.
Pour les résidents étrangers au Japon, le couperet est tombé le 3 avril. Interdiction de revenir au pays si vous partez ou êtes déjà parti. Des milliers d'expatriés se retrouvent bloqués. Depuis ce matin, les retours sont à nouveau possibles, mais seulement pour ceux qui ont quitté le Japon avant avril et sous conditions, comme l'explique ce cadre d'une entreprise française au Japon qui préfère garder l'anonymat.
Ça va se faire à raison de 500 personnes par jour, avec un protocole ultra drastique, avec le test avant de partir, le test à l'arrivée, un papier spécifique qu'il faut aller chercher physiquement à l'ambassade. Donc ces changements du 5 août, ils viennent très tard, après des situations de grande précarité pour une partie de ces personnes. Et celles et ceux qui sont partis après le 3 avril et ceux qui sont encore aujourd'hui sur le territoire et qui n'ont pas pris la décision de partir vont devoir attendre très très longtemps avant de pouvoir à nouveau voyager.
Muriel est malgré tout partie en juillet avec sa fille qui souhaite s'installer en France pour ses études.
J'ai un billet de retour le 24 août, mais n'ai aucun espoir de monter dans mon avion à cette date. Je suis mariée à un Japonais, ma maison est à Tokyo. J'y ai laissé mon mari et mon fils de 11 ans, mais je ne peux pas y retourner parce que je suis considérée comme une étrangère aux yeux des autorités japonaises.
Les expatriés au Japon reprochent au pays d'être l'un des seuls au monde à ne pas réserver le même traitement à ses citoyens et aux résidents étrangers.
C'est bel et bien terminé pour France 4 et France O. Les deux chaînes publiques vont fermer, a annoncé le ministère de la Culture hier. France 4 bénéficie toutefois d'un petit sursis d'un an jusqu'à l'été prochain pour assurer la diffusion de programmes éducatifs en ces temps de crise. La chaîne des Outre-mer France O, quant à elle, cessera d'émettre définitivement dès le 23 août prochain. La tendance météo de ce mercredi, en quelques mots, hormis en Bretagne, le bleu s'impose partout dans le ciel. Température en hausse, 24 à 31 sur la moitié nord, de 28 à 33 dans la moitié sud. Bonne journée à tous.